Lugra dialogue
Sigika Foba
Edowani wa Makaran.
Lugra dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigika Foba.
Lugra dialogue.
Le grand dialogue. Nous sommes mardi 8 juillet 2014. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce débat. Parmi nos invités de ce soir, un ministre, celui des Mines, Boubou Cissé, a accepté de répondre à nos questions. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Sidibé.
Nous recevons, en plus de Monsieur le ministre des Mines, Bonajim Cissé, qui est économiste, et Seydou Traoré de l'association Djogoni Maya, association qui réunit en son sein des cadres qui militent pour l'équité et la justice au Mali. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir.
Dans le grand dialogue d'hier, vous avez eu droit à un débat sur l'orpaillage. Ce débat a été réalisé suite aux affrontements meurtriers entre les forces de l'ordre et les orpailleurs de Kangaba la semaine dernière. Vous aurez droit ce soir à un autre débat, toujours dans le même domaine, sur la gestion du secteur minier au Mali. Nous vous proposons de parler de trois aspects, la gestion du secteur minier au Mali, l'exploitation minière et le foncier dans le pays, l'exploitation minière et le respect de l'environnement. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Djouara est à la technique.
Studio Tamani.
La gestion du secteur minier. Monsieur le ministre, vous ouvrez le bal avec cette question. Quelle est la politique de gestion du secteur minier appliquée par le Mali?
Donc, merci pour cette opportunité que vous m'offrez, que vous offrez au département dont j'ai la responsabilité depuis quelques mois. Très rapidement, pour répondre à votre question sur la gestion de ce secteur, qui est un secteur qui est entré en exploration depuis le lendemain des indépendances, jusqu'à connaître une certaine exploitation au milieu des années 90, est un secteur que l'État a essayé de gérer dans une perspective de gestion durable, de développement durable. Aujourd'hui, la nouvelle vision, c'est aller vers une exploitation qui soit équitable, qui soit aussi optimale, c'est-à-dire optimale des ressources minières, en vue de pouvoir contribuer à une certaine croissance, une croissance qui soit durable et surtout à un développement socio-économique. Et c'est de cette façon, en tout cas, que le secteur est géré depuis quelques mois avec l'arrivée au pouvoir de son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, qui a insufflé cette nouvelle vision dans la gestion de ce secteur. Donc en gros, ce qu'on essaie de faire, c'est faire en sorte que l'exploitation minière au Mali puisse contribuer véritablement au développement local, au développement régional, et quand on agrège tout cela, au développement national. Ça, c'est le premier, la vision que nous a vraiment inculqué le président de la République. Et donc, tout cela en gardant en tête la nécessité d'intégrer cette exploitation minière au reste de notre économie, au reste de notre économie nationale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse l'intégrer, cette exploitation minière, aux politiques commerciales et aux politiques industrielles. Donc c'est tout cela que l'on essaye de mettre en œuvre depuis quelques mois à travers un certain nombre d'axes stratégiques.
Alors, nous avons également Seydou Traoré de l'association. Seydou Idrissa Traoré de l'association Djogoni Maya, qui réunit des cadres pour la promotion de l'équité et de la justice au Mali. Monsieur Traoré, dites-nous si vous êtes si cette politique de gestion du secteur minier aujourd'hui que vient de d'énumérer Monsieur le ministre vous convient, vous, à l'association Djogoni Maya.
Merci, Monsieur Sidibé. Je dois dire que la gestion du secteur minier tel que ça se passe aujourd'hui, nous, ça ne donne pas satisfaction sur beaucoup de plans. On aura le temps de rentrer là-dedans. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, le secteur minier contribue pour beaucoup dans le taux de croissance du Mali. Mais quand on regarde de près, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on retient dans cette croissance? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Et quand on regarde aussi la façon dont ça se déroule sur le terrain, on n'est pas satisfait de la façon dont ça se passe.
Alors, nous avons un économiste également avec nous. Vous venez d'entendre la voix officielle sur la gestion du secteur minier, Chekna Bounajim Cissé. Vous venez d'entendre également Monsieur Traoré avec ses propos. Quelle est la vision de l'économiste par rapport à la gestion aujourd'hui du secteur minier?
Merci Monsieur Sidibé pour cette invitation qui m'a été faite. Je voudrais d'abord, avec votre permission, m'incliner pieusement devant les morts qui ont eu lieu lors des affrontements sanglants qui se sont passés à Kangaba. J'ai écouté avec beaucoup de désolation, de tristesse, parce que quand il y a mort d'homme, on ne peut que s'incliner. Et je pense que le débat d'hier a été suffisamment relevé pour que la voix du peuple soit entendue. Et pour que aussi la voix de l'autorité publique se soit entendue. Aujourd'hui, nous avions l'opportunité de discuter avec un membre du gouvernement. Je pense que c'est tout à l'honneur de M. Tamani, mais aussi de l'exécutif. Alors, je voudrais, avec la permission du doyen, juste rectifier un peu un certain nombre de choses. C'est ma raison d'être sur ce plateau. Et je parlais sous le contrôle de M. le ministre. C'est qu'aujourd'hui, le secteur minier n'est pas ce qu'il devait être au niveau du PIB, de la richesse nationale. Bien au contraire, le taux de croissance n'est impacté par le secteur OIF qu'à hauteur de 0,04%. J'ai les chiffres de la Banque centrale. Alors, je pense qu'il faut rentrer un peu dans le détail pour que les gens comprennent bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les exportations aurifères, par exemple, qui constituent l'essentiel du secteur minier au Mali, représente à peu près 70% de recettes d'exportation, pour parler en gros à la louche. Mais le poids au niveau du PIB est très très faible. Parce que, monsieur le ministre vient de le dire, parce que ce n'est pas un secteur qui est intégré. Ce n'est pas un secteur qui entraîne, qui est une industrie industrialisante. Donc c'est un secteur qui a une résilience, une double résilience du fait de son intégration faible, et aussi du fait que le cours de l'or a augmenté à un certain moment. Donc. Mais il faut dire aussi que aux auditeurs, pour qu'ils comprennent bien, l'or est un bien périssable. C'est-à-dire que à un moment donné, il n'y aura plus d'or. À un moment donné, il n'y aura plus d'or. Bon, on peut fantasmer que l'or coule comme de l'eau sous les trucs, mais bon, scientifiquement, cela reste à démontrer. Donc ça veut dire que nous devons faire extrêmement attention à la gestion de ce bien. Et dire aussi des choses qui sont importantes quand même. Je pense que je souhaiterais à ce que le débat aussi puisse se focaliser sur un certain nombre de points d'ordre économique pour que les auditeurs en tirent le plus grand profit. Notamment, j'ai dû cru entendre Monsieur le ministre dire, je crois que c'était le 10 septembre 2013, il pourra me rectifier au besoin à la sortie d'un conseil des ministres, qu'on va réexaminer les contrats miniers. Mais je pense que c'est une vraie question qui doit être examinée. Alors, depuis, qu'est-ce qui a été fait? Peut-être que certainement ça a été fait, mais ça n'a pas été diffusé. Et alors que depuis son arrivée au département, il prône une communication institutionnelle de grande envergure. Deuxième élément, c'est que les industries d'extraction minière sont dans une opacité totale. Donc, personne n'a accès à leurs informations financières. Vous avez vu le reportage qui avait été fait en 2013 par l'équipe de la télévision française Antenne 2. Ils n'avaient pas accès aux choses. Et ils ont été frappés récemment par un redressement fiscal initialement de 43 milliards. Qui a été ramené à 31 milliards.
Des suppressions de...
À des 31 milliards.
Et nous allons y venir.
Je veux juste compléter le CCDB pour camper.
C'est juste...
Alors, pour dire que... Non, c'est pour dire que le secteur aurifère est un secteur stratégique. Mais c'est un secteur aussi périssable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la diversification de l'économie va se poser d'une manière ou d'une autre.
D'accord. Voilà. Ce point de vue est compris. Je vous propose, avant que M. le ministre ne réponde à ces questions, je vous propose d'écouter un de nos invités hier. Il était dans le débat d'hier, Abdoulaye Niang, qui pense que les populations ne profitent pas assez des ressources minières. Je vous propose de l'écouter.
Un orpailleur ou une communauté d'orpaillage n'a aucun problème pour que le progrès vienne dans sa communauté, pour qu'une mine industrielle, la meilleure au monde, vienne dans sa communauté, mais pas au prix de dépossession de ses terres agricoles et minières, pas pour le chasser et même déterrer ses morts pour aller ailleurs. Et aller où? C'est ça le problème. Mais c'est tout à fait normal, le progrès. Les mines industrielles, moi je suis descendu à 200 ou 300 mètres dans une mine industrielle à Loulou-Gounkoto. Mais il y a 10 ans, il y a 20 ans, ce n'était pas possible. Donc le progrès technologique, on ne peut pas dire que nos populations qui ont été dépossédées de leurs terres agricoles et minières et qui n'ont pas été autorisées à être actionnaires dans les mines industrielles, on ne peut pas l'interdire d'utiliser le détecteur, on ne peut pas l'interdire d'utiliser les cracheurs. Ils font partie des technologies d'orpaillage dans d'autres cieux.
Monsieur le ministre.
Alors, peut-être rapidement, je réagis à ce que Monsieur Nyang vient de dire. Il faut que chacun puisse être informé et être au même niveau d'information. Il n'y a personne, je le répète encore, personne à qui on interdit la pratique de l'orpaillage et à plus forte raison leur déposséder de leur retirer leur terre. Ça, c'est une information que je voudrais dire. Tout ce que l'on demande, c'est que cette activité-là, que l'on considère comme une activité importante, c'est une activité économique qui peut être une activité économique considérée comme l'élevage ou l'agriculture. Donc on veut que cette activité s'inscrit dans le cadre de la loi. Il y a un code minier qui existe, qui traite ces questions d'orpaillage ou d'orpaillage mécanisé. On demande à ce que les uns et les autres qui sont sur des sites, des terrains que l'État a octroyés à des compagnies minières, puissent exercer leur activité dans le cadre strict de la loi. Donc il y a beaucoup d'informations qui sont dites là, qui ont été dites par M. Nyang, qui ne sont pas correctes. Le second point, quand il dit que les populations ne bénéficient pas assez de l'exploitation minière, nous sommes les premiers à le dire. Le président de la République l'a dit. Et c'est tout ce que l'on essaye de faire aujourd'hui, de faire en sorte que l'exploitation minière puisse bénéficier davantage aux populations qui sont les populations les plus proches de ces mines-là. Et on est en train d'y travailler. L'aspect développement local est extrêmement important. Monsieur Cissé, et en partie il rejoint ce que Nyang a dit, quand Nyang dit que l'exploitation minière ne bénéficie pas aux populations, c'est que la contribution de l'extraction minière dans notre pays se voit plus à un niveau macroéconomique. Je le reconnais. On le voit en termes de contribution par rapport au PIB, on le voit en termes de contribution par rapport à la balance commerciale, il l'a dit lui-même, c'est 70% de nos exportations. Et on le voit en termes de contribution par rapport aux recettes, aux revenus générés par l'État, les recettes fiscales. Malheureusement, quand on s'intéresse effectivement au niveau microéconomique, c'est-à-dire au niveau des communautés rurales, il y a des progrès à faire. Et c'est tout notre travail, c'est tout ce que nous essayons de faire depuis que nous sommes arrivés aux affaires au mois de septembre. Et je pense que petit à petit, nous arrivons à avoir quelques résultats sur le terrain.
D'accord.
Cissé, et je veux quand même rectifier un certain nombre de choses que M. Cissé, l'économiste, a dit. Quand on parle de contribution en termes de croissance, effectivement, il n'est pas élevé, ou en tout cas au niveau auquel nous souhaiterons qu'il soit, mais il n'est certainement pas de 0,04%. Si la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a écrit ça dans un rapport, c'est faux.
Okay.
La contribution en termes de croissance, qu'on appelle en termes de PIB, s'évalue à entre 5 et 7%. Ce n'est pas 0,04%.
Nous allons y venir.
Si vous le permettez, M. Traoré avait parlé
avant,
de...
Avant de répondre à M. Traoré, M. le ministre, nous allons observer quelques secondes de pause, une courte pause, et nous reviendrons vers vous.
Studio Tamani, URTEL, Fondation Hirondelle.
L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
URTEL, des radios de proximité au service du développement.
URTEL, formation, assistance, accompagnement et facilitation entre radios membres, partenaires et décideurs.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani, à Ségou, sur Radio Foucault, 100.8 MHz. Et la radio Sania, 105 MHz. Radio Tessiri de Nyono, 89 MHz.
Studio Tamani à Mopti sur la radio Kounari de Sévaré, 105.4 MHz. Radio Djamana de Djéné, 91 MHz. Et Radio Dahandé de Douansa, 107.7 MHz.
Studio Tamani à Tombouctou sur la radio Djamana, 91.4 MHz. Alpha Rouk de Tombouctou, 98 MHz. Isaber de Niafunké, 96.3 MHz.
Nous sommes à la deuxième partie du débat du jour qui parle de la gestion du secteur minier au Mali. Ce second volet est consacré à l'exploitation minière et à la question du foncier. Nos invités, Boubou Cissé, ministre des Mines, et Bounajim Cissé également, économiste, Seydou Traoré de l'association Djogonimaya. Alors, juste avant d'entamer cette deuxième partie, monsieur le ministre voulait répondre à quelques propos de Seydou Idrissa Traoré.
Voilà, peut-être pour... je vais résumer ce que Seydou Traoré et puis M. Cissé avaient dit. Et je pense que la réponse à leur inquiétude se trouve justement dans la vision que j'ai décrite. M. Traoré a parlé de croissance, mais d'une croissance dont les populations ne tireraient rien du tout. Je suis d'accord. Depuis que l'on a commencé l'exploitation dans ce pays jusqu'à récemment, il y a eu croissance, c'est-à-dire ce secteur des mines a contribué à la croissance, mais la croissance n'a pas été redistributive, elle n'a pas été redistribuée. Donc ce n'était pas une croissance équitable. C'est pour ça qu'au début, quand j'ai parlé de nouvelles visions insufflées par le chef de l'État, j'ai parlé d'une exploitation qui soit équitable, donc qu'elle puisse profiter aux populations, aux communautés rurales qui n'en ont pas bénéficié jusqu'à présent. J'ai parlé d'une exploitation qui soit optimale, de nos ressources minières, donc on en tire le plus grand profit. C'est pour ça, oui, on a parlé à un moment donné d'examen des contrats miniers pour que l'on part vers une situation où, à l'avenir, au Mali, on aura des contrats miniers qui soient des contrats qui soient gagnant-gagnant entre l'État et puis les sociétés minières. Donc c'est pour ça que je parlais d'exploitation optimale. Ils ont parlé des questions de l'environnement. Dans la nouvelle vision du chef de l'État, on a parlé aussi de croissance durable. Dans le mot durable, c'est l'après-mine. Quelqu'un en a parlé ici.
Alors, sachant que nous allons débattre de cette question-là dans le troisième volet, Monsieur le ministre, je vous propose de suivre cette interview qui a eu la rédaction avec le maire de Nouga, Sidiki Camara, que nous avons joint juste après les événements meurtriers qui ont eu lieu à Kangaba.
Depuis toujours, le jeudi, il y a eu affrontement entre la population autochtone. On a eu maille à faire avec la gendarmerie, dont le bilan faisait, dans un premier temps, étant d'un gendarme mort et de 14 civils aussi tués aussi par balle. Et le vendredi, la gendarmerie avait reçu des renforts de Bamako. À l'instant où je vous parle ce matin, dans les environs de Berber, c'est le village de Kobada qui a été entièrement mis à feu par. Ce matin, on m'a fait parler de 20 morts du côté de la population et 2 morts du côté des gendarmes et 9 blessés du côté des gendarmes. Et il y aurait eu plus de 89 blessés du côté de la population civile, 768 ménages sans abri et qui ont tout perdu.
Alors, Monsieur le ministre, vous êtes très attendu sur cette question liée aux événements de la semaine dernière à Kangaba. Comment expliquez-vous ces affrontements?
Écoutez, d'abord, comme M. Cissé nous a précédé, je voudrais d'abord avoir une pensée pour toutes les vies qui ont été perdues, que ce soit à Kobada ou à Foroko ces derniers jours. Et on comprend, effectivement, il y a des vies qui ont été perdues du côté des forces de l'ordre et puis malheureusement du côté de la population civile. Et on attend que les informations nous remontent pour que l'on sache exactement en termes de quantité. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On parle d'orpaillage. Il faut savoir que l'orpaillage... Quand vous prenez la définition de l'orpaillage dans son expression la plus simple, c'est un moyen rudimentaire d'extraction de l'or au niveau de ce qu'ils appellent les alluvions ou bien les fillons de quartz. Ça, je dis bien, en utilisant des moyens rudimentaires. Cela est toléré dans notre pays. C'est une pratique séculaire que l'on respecte. Et jusqu'à très récemment, il y a eu une bonne cohabitation entre les sociétés minières auxquelles on a délivré des permis miniers et... Les populations qui pratiquent ce type d'orpaillage artisanal. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans à peu près? C'est que l'exploitation artisanale que l'on connaissait au Mali a connu une évolution spectaculaire. Elle est totalement sortie de son contexte, particulièrement dans les zones de Kenyaba, de Kangaba, notamment Kobada et Foroko, où les orpailleurs mènent leurs activités sur des titres miniers qui sont attribués par le gouvernement à des compagnies minières. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, comme je l'ai dit, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, ce torpaillage-là a des conséquences extrêmement dramatiques sur l'environnement et sur la santé. Donc, le gouvernement, dans le souci de prendre en charge ce secteur-là et de l'aider à mieux se développer, nous avons voulu prendre un certain nombre de mesures pour mieux encadrer le secteur et aider à son développement. Et parmi ces mesures, et pour éviter des pertes de vie pendant la saison des pluies, on a décidé d'interdire la pratique de l'orpaillage pendant l'hivernage.
Donc c'était essentiellement pour éviter les accidents.
C'était essentiellement pour éviter les accidents et pour permettre aux orpailleurs, aux travailleurs, en tout cas une bonne majorité d'entre eux, de pouvoir retourner à la pratique de l'agriculture. Vous savez que l'agriculture est notre économie est dominée par l'agriculture et ce secteur-là est affecté par la pratique de l'orpaillage aujourd'hui. Donc il y avait éviter les accidents, permettre aux uns aux autres de pouvoir retourner, aux bravalis de retourner travailler dans les champs. Donc on a pris cette mesure-là. Il se trouve que du côté de Kobada, il y avait une unité de gendarmes qui, à la demande du ministère des Mines, a fait une sortie pour voir dans quelle mesure l'arrêté interministériel qui a été pris était appliqué, mis en œuvre. Ils sont tombés sur un groupe d'orpailleurs qui exerçait. Ils les ont demandé d'arrêter, de quitter les lieux. Et ça a été mal pris par les orpailleurs. Et par la suite, ça a dégénéré. Et ça a dégénéré dans le sens que vous avez indiqué. Nous sommes les premiers à les regretter. Mais aujourd'hui, l'État est en discussion avec les autorités coutumières et les autorités administratives pour que le calme puisse revenir rapidement et que l'on puisse tous s'asseoir ensemble pour réfléchir encore une fois au développement de ce secteur.
Alors, Seydou Idrissa Traoré, vous êtes membre de l'association Diogoni Maya, aujourd'hui une association qui réunit des cadres pour la promotion de l'équité et de la justice un peu dans les zones rurales. Quelle explication avez-vous à donner par rapport à cette situation? Est-ce qu'on pouvait éviter cette situation?
Bon, avant de répondre à la question, je voudrais un peu revenir en arrière. Parce que quand j'avais dit que nous n'étions pas satisfaits quant à la gestion du secteur minier, M. Sissé en a un peu parlé. Le ministre a parlé de vision équitable, exploitation optimale, durable. Équitable, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on va gagner dans cette équité? C'est ça qui nous intéresse. Nous, nous pensions qu'avec l'arrivée du président Ibrahim Boubacar Keïta, où les Maliens ont dit, dans la majorité des cas, nous sommes dans le trou, il va nous sortir de là. On s'attendait à ce que, aujourd'hui, le secteur minier, qu'on fasse l'audit des contrats, qu'on fasse l'audit des sociétés minières, parce que personne au Mali ne peut dire quelle quantité d'or sort au Mali. Personne ne peut dire quels sont les sous-produits. Le Mali, dans ces zones-là, il y a du diamant.
Est-ce que cela date d'aujourd'hui?
Mais même si ça ne date pas d'aujourd'hui, si on veut aller vers le changement, il ne faudrait pas que les ministres en place se mettent dans la continuité. Ils doivent se mettre dans le changement. Ils ne peuvent pas être porteurs. Ce qui s'est passé, d'accord, on dit que l'administration est une continuité, mais on veut la rupture. Et cette rupture, on attend ça du ministre actuel, pour beaucoup de raisons.
Alors, les événements...
Bon, maintenant, en ce qui concerne les événements...
Pouvait-on les éviter?
Mais on pouvait les éviter. Ça fait des mois qu'on parle de ça. D'abord, quand le ministre parle de traditionnel, non, il faut qu'on évolue. L'agriculture est partie de la daba à la charrue, aujourd'hui au tracteur. On ne peut pas dire que l'orpailleur doit rester avec la pioche. Non. Il faut qu'on évolue. Donc, l'évolution doit être acceptée.
Le droit à la terre, comment le définissez-vous aujourd'hui, M. Traoré?
Maintenant, je vais arriver. Le permis, comme il le dit, comment une administration responsable peut-il donner le permis sur toute l'étendue des cercles de Kai à Kadjolo, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas le permis. Et tous les villages sont dans un permis. Et mieux, tous les cours d'eau, il n'y a pas un centimètre carré où il n'y a pas de permis dessus. Comment vous pouvez parler de paix sociale quand vous prenez des décisions comme ça? Donc,
ces décisions remontent à quand?
Bon, depuis les événements de mars 91. Hein? Donc, aujourd'hui, le foncier, c'est, quand on dit que les gens sont sur les permis, vous ne pouvez pas donner les terres d'un village. On prend Combadla aujourd'hui, il y a 5 villages là-dedans.
Là où il y a eu les événements.
Voilà. Comment on peut donner toutes les terres d'un village, 200 km², et quand les propriétaires de permis viennent, on recense les vergers, on recense les champs. Nous avons pris on affiche sur un baobab pour dire que bon, les propriétaires de vergers allaient vous recenser. Ils n'ont aucun droit de recours.
Alors, l'économiste a-t-il une idée aujourd'hui sur la question du foncier et de l'exploitation minière, la gestion qui est faite de cette situation?
Merci, M. Sidibé. Merci, M. Sidibé. Je voudrais dire au ministre qu'en termes de chiffres, nous avions, je me base justement sur les publications de son CPR, de sa cellule de suivi. Alors, et c'est la contribution.
La cellule ne peut pas vous avoir parlé de 0,04%.
Alors j'arrive, monsieur le ministre.
Mais il faut corriger ça,
monsieur le ministre.
Je connais les chiffres de ma cellule.
J'arrive, la contribution du secteur aurifère au PIB est de 7,6%.
Mais Cheikh Nabounagim, malheureusement, nous n'avons plus.
Non, je sais.
Donc c'est pas 0,04%.
Monsieur le ministre, si vous me permettez.
Allez-y.
Nous sommes des économistes, nous savons que, c'est-à-dire le taux de croissance de 4,5%. Donc, c'est le 7,6% qui est rapporté au taux de croissance. Donc, c'est l'apport au taux de croissance, non, l'apport dans le PIB.
Donc, il faut.
Cette précision étant faite, alors, je voudrais dire que gérer, c'est prévoir. J'ai apprécié, en janvier 2014, quand le ministre s'est déplacé dans la zone pour déjà expliquer aux populations riveraines et apporter la paix. J'avais pensé moi-même que le problème était résolu puisque ça datait de 2013. Il faut dire que sous la transition, il y a un certain nombre de contrats qui ont été passés. Peut-être que M. le ministre est mieux placé que moi, qui ont été passés dans des conditions pas tout à fait claires, pour ne pas dire orthodoxes. Alors, il est important, c'est pour ça que je me suis permis d'interpeller le ministre sur ça, parce qu'il faut faire l'audit des contrats miniers. Il faut faire l'audit des sociétés minières pour que les populations maliennes sachent réellement où va l'or du Mali. Et aujourd'hui, on n'a pas la situation de l'or du Mali.
Donc c'est une interpellation.
Mais c'est une vraie interpellation.
Un plaidoyer.
Alors, c'est une vraie interpellation. Je voudrais aussi dire que ce qui s'est passé, moi je ne suis pas l'adepte, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas l'adepte d'un État faible. Quand on instaure des règles, des lois, il faut qu'elles soient appliquées. Voilà. Donc aujourd'hui, la situation de l'or paillage traditionnel est une situation qui ne peut pas laisser indifférentes les autorités. Donc il faut les organiser, il faut les encadrer. On ne peut pas laisser faire. Les gens aspirent à leur prospérité, mais les contraintes qui sont liées à la création de la richesse, ils ne veulent pas se plier. D'accord. Donc là aussi, c'est important quand on appelle des investisseurs étrangers et qu'on leur délivre des permis, il faut que cela soit exercé. Mais maintenant, de là à leur donner un permis sur l'étendue des surfaces cultivables ou des domaines d'exploitation, ça n'est une autre. Donc il est important à ce niveau-là.
Cheikh Nabounagim, si tous ces points de vue-là sont compris, je pense que M. le ministre a pris bonne note de toutes ces questions et de ces remarques. M. le ministre aura largement le temps de répondre à toutes ces questions juste après cette courte pause.
Studio Tamani, Urtel, Fondation Hirondelle.
La Fondation Hirondelle est au service du professionnalisme de l'information,
rigueur,
précision,
vérification des faits,
équilibre, pluralisme et bonne gestion.
Studio Tamani, pour bien s'entendre au Mali.
Studio Tamani à Gao sur la radio Nata 91.7 MHz, la radio Adar Kouima 101.7 MHz et la radio communautaire de Bourem 99.0 MHz.
Studio Tamani à Kidal sur la radio Tisdas 91.1 MHz.
Studio Tamani à Bamako sur la radio Liberté 97.7 MHz, Radio Benkin 97.1 MHz et la radio Guintan, la voix des femmes 94.7 MHz.
Merci d'être fidèle à cette émission qui vous parle aujourd'hui de la gestion du secteur minier au Mali. Cette troisième partie est consacrée à l'exploitation minière et au respect de l'environnement. Nos invités, Boubou Cissé, ministre des Mines, monsieur le ministre qui nous a fait l'honneur de participer à cette édition spéciale. Nous avons également Bounajim Cissé, économiste, Sédou Idrissa Traoré de l'association Djogonemaya. Alors juste avant de poursuivre avec cette deuxième partie, avec cette troisième partie, qui parle du respect de l'environnement, nous allons permettre à M. le ministre de répondre, de réagir par rapport aux réactions, aux interventions de Sédou Idrissa Traoré et de Chekna Bounajim Cissé. M. le ministre, à vous.
Merci. Donc, ce que je voudrais dire rapidement, c'est que nous sommes l'administration minière. Et quand un État, comme M. Cissé l'a dit, quand un État prend des textes, il faut que ce soit appliqué et que ce soit appliqué partout. Et nous, on n'a pas d'autre choix que d'appliquer le droit minier. Qu'est-ce que le droit minier, le code minier dit aujourd'hui par rapport à l'orpaillage? Encore une fois, je vous dis, l'orpaillage, au sens traditionnel du terme, ne pose aucun problème à qui que ce soit, ni l'État, ni les sociétés minières. Qu'est-ce qu'on constate sur le terrain aujourd'hui? Les orpailleurs de artisanaux traditionnels se sont convertis aujourd'hui à l'orpaillage pratiquement mécanisé. À la place de, vous parliez de Daba, Pioche, M. Traoré en parlait, aujourd'hui, on voit des pelleteuses, des camions bennes sur les sites des gens. Ça, ce n'est pas possible et ce n'est pas tolérable. Et donc, le code minier encadre ce type d'orpaillage mécanisé. Donc, ce qu'on demande aux gens, c'est de se mettre en conformité avec l'administration minière, qu'ils demandent une autorisation d'exploitation artisanale mécanisée auprès de la Direction nationale de la géologie et des mines et qui se mettent en règle. Mais il ne faut pas qu'ils soient en dehors de la règle. Donc c'est tout notre combat par rapport à cela. Ça, c'est le premier point. Sur les interrogations de M. Cissé sur les contrats, l'audit, etc., ce sont des choses qui sont en cours. Il est économiste, un audit, notamment des sociétés minières en exploitation. Non seulement ça prend du temps, mais ça coûte beaucoup d'argent. On a 9 sociétés minières industrielles aujourd'hui, c'est-à-dire en exploitation. Je vous le répète, on compte faire l'audit de ces sociétés. Mais c'est un audit qui coûte 4 millions de dollars, M. Cissé. Et pour l'instant, on n'a pas tout ce financement. Donc les choses vont se faire petit à petit. Les termes de référence ont été établis, ils ont été validés. Et dans les semaines ou mois à venir, vous verrez un appel d'offres qui sera réalisé pour faire un audit d'au moins 2 à 3 sociétés, dans un premier temps. Et ensuite, d'ici dans les années à venir, nous verrons. Sur les permis, on est là-dessus. Il y a des permis, effectivement, qui ont été délivrés dans des conditions assez louches pendant une certaine période, sur lesquels on est en train de travailler et les réviser. Il y a un certain nombre de permis miniers en exploration qui ont déjà été annulés et il y a pratiquement une centaine qui est en cours d'annulation. Donc ce travail-là est fait et il continuera à être fait. Je veux rassurer les auditeurs par rapport à cela.
D'accord. Alors l'environnement, l'exploitation minière et le respect de l'environnement, quel respect, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à ce respect de l'environnement dans les zones comme Kangaba, Sédou Idrissa Traoré?
Bon, un petit retour en arrière. Hein? Il faut dire que les pelles et les camions dont M. le ministre parle n'appartiennent pas aux orpailleurs.
Ça appartient à qui?
Ça appartient à des fonctionnaires installés à Bamako. Aucun orpailleur ne dispose de pelles ou de camions. Ça, il faut être
avez-vous
clair.
Avez-vous des preuves de
Nous avons des preuves. Nous avons des preuves. Nous faisons toutes ces zones-là de Sadiola à Kadiolo. Ça, c'est d'un. De deux, il faut rappeler que le code minier du Mali a été inspiré sur l'Afrique du Sud. Ça ne nous convient pas. Ça, c'est ça qu'on ne dit pas. En 92, c'est la Banque mondiale qui a amené le premier draft du code minier.
91.
Oui, 91, après les événements. Donc, c'est inspiré de l'Afrique du Sud. Le Mali n'est pas l'Afrique du Sud. On ne peut pas donner les terres en faisant fi des villages. Ça peut se faire ailleurs, pas au Mali. Donc, monsieur le ministre, ne dites pas non. Parce qu'on ne peut pas expliquer pourquoi il y a des permis sur toutes les terres et tous les villages.
Non, bon, je hochais la tête parce que l'Afrique du Sud, le secteur minier en Afrique du Sud est totalement différent du secteur minier malien.
Quand vous reprenez en 99...
On va un peu progresser, sinon malheureusement nous n'avons pas.
Quand vous parlez de l'environnement, d'accord. Quand vous parlez de l'environnement, mais l'environnement n'est respecté nulle part, parce que les études environnementales sont faussées. Ceux qui donnent le permis ont des bureaux d'études, c'est eux qui font les études environnementales. Vous ne verrez aucune étude environnementale qui tient compte des villages, ce qui est anormal. Et vous voyez les exploitations aujourd'hui. Par exemple, nous avons le cas de Fametal qui a détruit complètement le fleuve.
Fametal qui est
une société chinoise qui a détruit la Falémée. Et vous prenez tous nos fleuves, que ce soit le Niger, tous les cours d'eau de ces cercles-là, il y a des dragues, ils utilisent du cyanure, ils utilisent du mercure, ils utilisent de l'acide nitrique à forte concentration. Tous nos fleuves. Et ça, nous avons fait le tour de tous les cercles, c'est à tous les niveaux. L'environnement est complètement dégradé. Nous avons fait certains cours d'eau, vous ne verrez ni papillons, ni poissons. Il n'y a rien, aucune âme qui vive dans ces environs.
Okay. Alors à long terme, Cheikh Nabou Najim, s'il n'y a plus d'or aujourd'hui, quel sera le monde économique dans ces zones-là?
Je crains que ce ne soit la désolation. Parce qu'il y a deux éléments sur lesquels je voudrais attirer l'attention. On parle d'orpaillage traditionnel, mais on oublie qu'il y a 40 000 enfants qui travaillent sur ces sites et qui abandonnent l'école. Ça fait 20% de l'effectif. Ça interpelle. Aucun pouvoir public ne peut laisser ses enfants abandonner l'école pour une activité qui ne va durer que 10 ou 13 ans. La durée de vie moyenne d'une mine, c'est 13 ans. Donc ça, quand même, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que la diversification même de notre économie pose problème. Sur tous les plans, sur le plan minier, sur le plan global, nous avons une économie peu diversifiée. Et en ce moment, il faut chercher d'autres alternatives. Il faut créer de la valeur ajoutée. Parce que ce qui explique le faible poids au niveau du PIB, du taux de croissance du PIB, c'est le fait que les investissements qui sont réalisés dans le secteur minier, qui représentent l'essentiel des IDE, qu'on appelle les investissements directs et étrangers, sont des importations en réalité. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas un effet d'entrement au niveau de l'économie. Je voudrais dire au niveau de l'environnement deux mots. En septembre 2007, l'État est une continuité. Hein, donc, le débat ne s'adresse pas à l'actuel gouvernement, qui est en train de faire un certain nombre d'éléments positifs. En 2007, la FDH, la Fédération internationale de développement, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, a fait un rapport accablant sur le Mali. Il est consultable sur le net, ça s'intitule « L'exploitation minière et les droits humains ». C'est une mission internationale d'enquête à attirer l'attention des gouvernements sur la nécessité de protéger l'environnement. Et c'est pour ça que moi, dans le livre que j'ai fait, « Les défis du Mali nouveau », j'ai proposé, comme ça se fait au niveau du secteur BTP, qu'on fasse une retenue de garantie de 5%. Justement, pour pallier à l'effet à long terme, aux effets indésirables à long terme. Quels sont les impacts pour que vos auditeurs comprennent sur l'environnement? D'abord, le milieu physique. Il y a l'émission de gaz, les pertes et les dégradations de sol, les effets sur l'eau, la déforestation, le déboisement, le milieu humain. Donc, l'impact est important. Et en général, comme on le fait dans les contrats de BTP, on fait une retenue de garantie pour supporter éventuellement les effets néfastes qui pourront naître éventuellement de la dégradation de l'ouvrage.
Merci beaucoup, Cheikh Nabou Najim Cissé. Alors, Monsieur le ministre, vous avez la parole pour réagir par rapport à cette question de l'environnement, l'orpaillage, enfin l'exploitation minière et le respect de l'environnement.
Non, juste pour dire que nous sommes très, très soucieux de la protection de l'environnement dans l'exploitation des minerais qui sont dans notre sous-sol ici. Maintenant, il faut dissocier l'exploitation artisanale, donc l'orpaillage de l'exploitation industrielle. Tous les méfaits que M. Traoré a cités sur le long de la Falémée, il aurait dû à la fin préciser que c'est du fait de la pratique des orpailleurs et de l'orpaillage. Donc ça, premièrement. Maintenant, quand on s'intéresse à la mine industrielle, l'État fait un certain nombre de choses. Premièrement, chaque société d'exploitation, avant d'entrer en activité, c'est-à-dire avant même qu'on ne lui délivre son permis d'exploitation, doit produire une étude d'impact environnemental et social, dans laquelle, normalement, sont prises en compte toutes les mesures correctives par rapport aux impacts que l'activité peut engendrer. Maintenant, les services de l'État doivent pouvoir contrôler cela. Il y a eu des défaillances, ça, on n'en a pas douté, et on essaye d'y travailler pour y remédier. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, il y a un autre aspect qui est lié à l'après-mine. C'est-à-dire qu'une fois que l'exploitation est finie, il faut pouvoir restaurer le site. Et notre code minier prévoit, pour chaque société qui entre en exploitation, chaque société est tenue de provisionner un compte qu'ils appellent un compte ou un fonds de fermeture de la mine, qui est destiné à faire face aux aspects liés à l'après-mine ou à certains des éléments que Monsieur Cissé a mentionné. Tout ce qui est restauration du site, que faire du personnel, le développement local, la communauté, etc. Et ça, donc ce fonds existe. La proposition de M. Cissé qui consistait à retenir 5%, elle est bonne, mais je pense que ça correspond déjà à ce qui existe, même si ce n'est pas à hauteur de 5%.
D'accord. Alors, juste une dernière question, Monsieur le Ministre. Qu'entendez-vous faire aujourd'hui pour que la tension qui règne dans les zones comme Kangaba puisse baisser?
Il y a, encore une fois, ce que je voudrais dire, c'est que l'orpaillage est une activité importante pour nous, en tout cas pour cette administration-là. Elle est importante parce qu'on la reconnaît comme une activité séculaire. Elle est importante parce qu'on pense qu'elle est potentiellement une activité économique dont l'État même pourrait tirer quelque chose. On dit simplement qu'il faut qu'elle se pratique dans un cadre qui soit bien défini. Et c'est cette main qu'on a tendue aux populations. Monsieur Traoré le sait, le ministère les a eux-mêmes demandé à nous aider. Ils ont fait une mission pour nous dans la région de Kenyeba. Et on est en train de discuter avec les orpailleurs et les tombolomas, etc. Et il y a des propositions qui sont sur la table, qui leur ont été proposées, que l'on est en train de discuter.
Donc vous n'abandonnez pas les populations?
Du tout. Et on est en train de préparer un forum national de l'orpaillage au Mali ici, qui se tiendra au mois d'août, d'ici la fin du mois d'août, pour justement proposer des solutions très concrètes pour une gestion durable et optimale de ce sous-secteur des mines.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous sommes au terme de ce débat. Un grand merci à nos invités du jour. Je rappelle que nous avions eu comme invité spécial parmi nous aujourd'hui le ministre Boubou Cissé, ministre des Mines. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour vos éclairages dans ce débat. En plus de M. le ministre, nous recevions Bounajim Chekna Bounajim Cissé. M. Cissé est économiste et Sédou Idrissa Traoré de l'association Djougounimaya, association qui réunit en son sein des cadres qui militent pour l'équité et la justice au Mali. Merci beaucoup, messieurs. Le débat du jour portait sur la gestion du secteur minier et nous avons parlé de trois points. La gestion du secteur minier au Mali, l'exploitation minière et le foncier dans le pays, l'exploitation minière et le respect de l'environnement. Encore une fois, merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara était à la technique. Ousmane Diadé Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chaîne Nibiru.
Halo Dmouni.
Chaîne Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.